Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle dans le cadre de notre chronique Vive la Commune, chaque semaine jusque fin mai à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, troisième opus de cette chronique, nous allons commencer à nous intéresser au communalisme. Nous vous proposons un déroulement en trois parties. Premièrement, les expériences communalistes en dehors de Paris. Deuxièmement, quelle histoire du communalisme ? Et troisièmement, enfin, quelles traces à notre époque ? En quelque sorte, à partir de la Commune de Paris, en 1871, nous vous proposons un tour d'horizon hors de Paris et avant et après 1871. Pour cette émission, nous nous sommes appuyés sur les sources suivantes. Le hors-série de Politis, intitulé « La Commune, une histoire en commun », publié à l'occasion des 150 ans de la Commune. Le dossier de l'Alternative libertaire, intitulé « L'espoir meurtri de la Commune de Paris ». Le numéro spécial des Utopiques de l'Union syndicale solidaire, intitulé « La Commune de Paris, mémoire, horizon ». Le livre de Pierre Dardot et Christian Laval, « Marx, prénom Karl », et notamment le chapitre « L'énigme de la Commune ». Le livre de Michel Zancarini-Fournel, « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France ». Et enfin, le livre « Autogestion, hier, aujourd'hui, demain ». En première partie de cette émission, nous restons donc en 1870-1871, mais nous quittons Paris et nous partons à la rencontre d'autres communes qui eurent lieu en France. Précisons d'emblée que, en province, le mouvement communaliste a démarré avant la Commune de Paris, et notamment à Marseille.
À Marseille, du 8 au 10 août 1870, le processus révolutionnaire communaliste prend racine au début de la Nouvelle République. Le 8 août, la foule s'empare un temps de l'hôtel de ville. Le 4 septembre, Marseille proclame la République, quelques heures avant Paris, et forme des comités de salut public. En Provence, le mouvement fait tache d'huile. Les comités envoient des émissaires dans les villes voisines, se coordonnent et finissent par se fédérer le 18 septembre. 48 délégués de 13 départements, réunis à Marseille, créent la Ligue du Midi pour organiser la défense contre les Allemands. La section de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, juge que l'insurrection est à l'ordre du jour. Le 1er novembre, la foule s'empare de l'hôtel de ville. Les révolutionnaires proclament la Commune révolutionnaire de Marseille. Mais la garde nationale est divisée et, le lendemain, des affrontements font 3 morts. Les meneurs, effrayés par la perspective d'une guerre civile, mettent fin à l'insurrection. Le 3 novembre, l'armée, fidèle au gouvernement, reprend le contrôle de la situation. Le mouvement communaliste reflue alors et la Ligue du Midi disparaît du paysage politique. Les conditions ne sont pas mûres pour l'installation de pouvoirs populaires, même dans les grands centres urbains. La priorité est à la défense du pays, ainsi qu'à l'unité des républicains face à la menace d'une domination monarchiste sur l'Assemblée nationale. Toutefois, cette première vague révolutionnaire les étrace. En faisant de l'association des cités le fondement de la vie politique, le mouvement communaliste préfigure un dépassement de l'État, une idée qui va ressurgir à la fin de l'hiver. Quand arrive la nouvelle de l'insurrection du 18 mars à Paris, Marseille se soulève. Le soir du 22 mars, le jeune avocat radical Gaston Crémieux lance un appel aux armes pour se défendre contre le gouvernement de Versailles. Le lendemain, la préfecture est envahie par les gardes des quartiers populaires. Une commission départementale, dirigée par Crémieux, prend le pouvoir et discute en vain avec le conseil municipal. Pendant ce temps, le commandant de l'armée des Bouches-du-Rhône, le général Espivent, officier réactionnaire et clérical, rassemble des troupes à 17 km de là, à Aubagne. Le 3 avril au soir, après avoir appris l'échec des sorties des fédérés parisiens, il marche en direction de Marseille. Le jour suivant, la confusion est générale dans la ville où des barricades sont construites. Certains soldats fraternisent avec la foule massée devant la préfecture. le général Espivent fait bombarder Marseille. Les marins occupent la préfecture, vide, ses défenseurs l'ayant quitté. Crémieux s'enfuit déguisé en femme. Il y a 30 morts parmi les troupes régulières et 150 morts chez les insurgés. Il faut ajouter les victimes du bombardement et les gens fusillés sur place sans jugement le 4 avril et les jours suivants. La commune de Marseille est vaincue. L'état de siège est proclamé et maintenu jusqu'en 1876 avec fermeture des clubs, suspension des réunions publiques, dissolution de la garde nationale, suppression de toute publication favorable à la commune. Le lendemain, le défilé solennel victorieux se fait au cri de « Vive Jésus » et « Vive le Sacré-Cœur ». Pourtant, des poèmes et des chansons, en partie en provençal, circulent clandestinement.
Ainsi, à Marseille, l'insurrection a duré 13 jours. C'est la plus longue des expériences de communes de province. À Lyon, c'est également en août 1870 que l'opposition à Napoléon III s'agite. Le 13 août, une émeute à la Croix-Rousse fait un mort et deux blessés. Avec l'AIT, proche de Bakounine, qui est à Lyon, une première tentative d'insurrection est mise en œuvre le 28 septembre. Elle tourne court. Et on se retrouve ainsi en mars, au moment de la Commune de Paris.
On peut cependant noter que, à Lyon, le drapeau rouge a flotté sur l'hôtel de ville du 4 septembre 1870 au 3 mars 1871, date à laquelle le préfet a obtenu qu'il soit remplacé par le drapeau tricolore. Pour peu de temps, le 22 mars, le drapeau rouge est à nouveau hissé sur le bâtiment. Des bataillons de la garde nationale, venus principalement des quartiers de la Croix-Rousse et de la Guillotière, proclament la commune de Lyon. La foule applaudit au cri de « Vive la commune » à bas Versailles. Le lendemain, une affiche explique « Notre ville qui, la première au 4 septembre, a proclamé la République, ne pouvait tarder d'imiter Paris. » Le souci de la commission provisoire qui a remplacé le conseil municipal est de préserver l'autonomie communale. Il ne faut pas que la garde nationale soit sous les ordres du préfet. Mais très vite, la commune se heurte à de fortes oppositions. Toute la grande presse lyonnaise lui est hostile, de même que les bataillons de l'ordre, ceux des boutiquiers du centre-ville, ainsi que le maire et la majorité du conseil municipal qui font appel aux vétérans des régiments mobiles du Rhône. Les membres de la commission provisoire tergiversent, se refusant à une intervention sanglante. Ils décident d'évacuer l'hôtel de ville au petit matin du 25 avec une lettre de démission. 67 personnes sont arrêtées. Le conseil municipal publie une déclaration modérée réaffirmant son soutien à la République et réclamant l'autonomie municipale pour Paris et les autres grandes villes. Les Lyonnais envoient une délégation qui rencontre à la fois Thiers et des membres de la Commune de Paris, le conseil municipal souhaitant jouer un rôle conciliateur, sans succès. La loi versaillaise du 16 avril sur les conseils municipaux et les élections des conseillers municipaux prévues pour le 30 avril cristallise une nouvelle poussée révolutionnaire. Émanant essentiellement de l'AIT, une nouvelle commission plus ou moins clandestine, mais infiltrée par un indicateur, prépare un plan insurrectionnel précis, articulé à un programme de révolution sociale et appelle à l'abstention le 30 avril. Ce jour-là, à 4 heures du matin, le tocsin sonne dans le quartier de la Guillotière et un appel aux Lyonnais est placardé dans les rues. L'heure est venue. La cité lyonnaise, la première le 4 septembre qui ait revendiqué ses droits à la commune, ne peut pas plus longtemps laisser égorger sa sœur, l'héroïque cité de Paris. Pendant tout le mois d'avril, une série de réunions publiques et de pétitions entretiennent le débat et réclament de choisir entre Versailles et Paris. Les seuls bataillons qui se présentent fraternisent avec les insurgés. Dans l'après-midi, le préfet envoie la troupe qui est littéralement empêchée d'avancer par une foule de femmes, d'enfants et de quelques hommes qui se mêlent aux soldats, certains refusant de tirer. Le préfet veut absolument en finir et fait tirer des coups de canon à blanc pour disperser la foule. Des combats sont engagés pour mettre à bas les barricades qui résistent toute la nuit. Au petit jour, la guillotière est matée. Les blessés se cachent et on dénombre des dizaines de morts. 152 chez les insurgés, 30 chez les attaquants, selon le procureur Andrieux. L'insurrection se déplace en fin de journée à la Croix-Rousse, où la mairie est investie, des barricades construites, les lignes télégraphiques coupées. Mais la reddition de la guillotière démontre que toute résistance devient vaine et la commission accepte de démanteler les barricades sans qu'une goutte de sang ne soit versée. Les élections municipales du 30 avril 1871 sont annulées et reportées au 7 mai, avec des résultats en faveur des modérés de l'ancien conseil municipal.
Ainsi, à Lyon, alors que les Versaillais concentrent des troupes aux portes de la ville, le pouvoir révolutionnaire abdique le soir du 24 mars 1871. Le lendemain, l'armée parade dans Lyon, la commune est morte, sans combattre. Nous évoquons maintenant d'autres villes de province, en commençant par Saint-Étienne.
Dans la suite de la proclamation de la République en septembre 1870, le camp républicain stéphanois s'organise autour de deux forces principales. D'une part, l'Alliance républicaine qui rassemble les plus modérés, d'autre part, le Comité central républicain qui regroupe essentiellement des gardes nationaux, des ouvriers des usines de textile, des employés de commerce et des artisans. À partir de décembre, le comité fait paraître un journal au titre explicite, La Commune. Le 22 mars, on y lit « La révolution triomphe, le peuple se réveille et veut la Commune ». Le 23, des délégués de l'Alliance républicaine et du Comité central républicain demande la dissolution du conseil municipal et la proclamation de la commune. Le maire tergiverse. Le lendemain, une nouvelle délégation se rend à l'hôtel de ville. La majorité du conseil municipal démissionne, mais le maire entend rester en poste jusqu'aux prochaines élections. L'Alliance républicaine, pour sa part, est d'accord. L'avis est différent du côté du comité central républicain. Il est décidé de constituer une nouvelle délégation et de se rendre en masse à l'hôtel de ville. La garde nationale et les manifestants occupent l'édifice et exigent la démission des autorités en place. Préfet, maire, adjoint, commandant de la garde nationale. Ces derniers refusent et sont arrêtés. La commune est proclamée. La nuit même, les prisonniers sont libérés et l'hôtel de ville abandonné par ceux qui l'occupaient. La réaction, elle, passe à l'offensive. Un nouveau préfet est nommé. D'emblée, il menace par affiches placardées sur les murs de la ville. « Arrivé cette nuit, dit-il, j'ai trouvé des factieux tentant de consommer un attentat contre l'ordre et les lois de la République. La seule apparition de quelques bataillons a déterminé la complète retraite des séditieux. » La tension monte entre les représentants du gouvernement central installés à l'hôtel de ville et les manifestants, dont des gardes nationaux armés qui manifestent dans les rues de la ville. Le 25, la garde nationale reprend possession de la mairie, mais la bataille fait un mort en son sein. Le soir, une nouvelle fusillade éclate, faisant 3 morts, dont le préfet. Le 26, télégraphes, gares et poudrières sont occupés et des élections à la commune sont annoncées pour le 29 mars. Mais dès le 27, des troupes arrivent de Lyon. Le 28, elles encerclent la ville. Les quelques dizaines de personnes occupant l'hôtel de ville se rendent. C'est la fin de la commune de Saint-Étienne. Ici aussi, la République bourgeoise ne s'embarrasse pas trop avec ses propres règles dites démocratiques. Malgré les arrestations et poursuites qui ont suivi la fin de la commune stéphanoise, lors des élections du 30 avril, les candidats de l'Alliance républicaine et du Comité central républicain sont majoritaires. Tout le conseil municipal est alors remplacé par une commission préfectorale.
À Narbonne, l'agitation révolutionnaire, commencée le 20 mars, porte ses fruits le 24. Le peuple en armes s'empare de l'hôtel de ville, au balcon duquel on proclame la commune centrale de l'arrondissement de Narbonne. Le lendemain, les soldats fraternisent avec les insurgés et les communards sont maîtres de la ville. Ils travaillent activement à la contagion aux villes voisines, mais Carcassonne, Béziers et Sète ne suivent pas. Les tentatives de soulèvement à Perpignan et à Coursan sont des échecs. Pendant ce temps, les Versaillais ont levé des troupes dans la région, qui assiègent Narbonne le 31. Après des affrontements qui font deux morts, les communards, jugeant le rapport de force trop inégal, rendent les armes. La commune de Toulouse, quant à elle, a vécu du 25 au 27 mars 1871.
En février 1871, lors des élections législatives, les Républicains sont majoritaires dans le centre de Toulouse et le faubourg Saint-Cyprien, mais pas dans le reste de la ville et du département. Le 19 mars, le préfet du Portal fait remettre à l'armée le poste de l'arsenal que tenait la garde nationale. Cela n'empêche pas Thiers de le destituer. Cette fois, il est remplacé par le comte de Kératry. Le 25 mars, les officiers de la garde nationale refusent d'aller soutenir Versailles. La commune de Toulouse est proclamée depuis le Capitole. Du Portal est invité à en prendre la tête. Il refuse. Le surlendemain, le 27, Kératry prend possession de l'arsenal, avec 3 escadrons de cavalerie, 600 fantassins et 6 pièces de canon. Il fera de même pour la préfecture et la mairie. La courte commune de Toulouse a vécu.
Le Creusot maintenant, où la famille Schneider règne dans la ville de Saône-et-Loire depuis 1836. Elle y a acheté les mines de charbon et de minerai de fer, ainsi que les usines métallurgiques.
Le 24 mars, quelques jours après le début de la Révolution parisienne, 3000 personnes se réunissent au Creusot et marquent leur soutien. Le 26 mars, une manifestation est organisée par le Comité républicain et socialiste. L'armée est encore appelée par les tenants de l'ordre. Mais soldats et gardes nationaux fraternisent. La commune est proclamée. Toutes les mesures d'administration communale seront immédiatement soumises à l'appréciation du peuple en réunion publique ou par voie d'affichage, est-il annoncé. Le préfet envoie de nouvelles forces militaires pour quadriller la ville. Lorsqu'il est décidé d'occuper la gare, le télégraphe et la poste, l'armée a déjà pris possession de ces bâtiments. Nombre de grévistes reprennent le travail. Le 27 mars au soir, une dernière manifestation a lieu, mais le mouvement cesse le 28. La plupart des membres du Comité républicain et socialiste s'exilent à Genève. Lors des élections municipales du 30 avril, Dumay, alors clandestin, mène la liste démocrate, qui l'emporte au premier tour contre celle du fils Schneider. La riposte réactionnaire est immédiate. Le même Schneider licencie une centaine d'ouvriers et menace les autres. Il l'emporte au deuxième tour. La commune du Creusot, et plus largement les grèves de 1870-1871, sont l'illustration de l'affrontement entre deux classes sociales aux intérêts opposés. La bourgeoisie, localement incarnée par les capitalistes de la famille Schneider d'une part, et le prolétariat d'autre part.
Et nous terminons par la commune de Limoges.
La commune de Limoges se distingue moins par sa brièveté que par son origine. Elle prend naissance tardivement, le 6 mai 1871, dans l'opposition des membres de la société populaire au départ des soldats envoyés à Versailles pour défendre le gouvernement. Avec la complicité de certains militaires, les ouvriers empêchent les trains de partir, se disant prêts à arracher les rails s'il le faut. Vers 11 heures du matin, soldats et ouvriers reviennent en cortège dans le centre-ville. Pendant ce temps, un officier de la garde nationale incite la foule à se regrouper sur la place centrale. Le maire demande au préfet de s'entremettre pour éviter que les soldats ne soient jugés pour désertion. Au bruit des roulements de tambour, la garde nationale et la foule envahissent la préfecture. La commune est proclamée. Le préfet ordonne à la cavalerie de disperser les ouvriers, mais les gardes nationaux sortent, baïonnettes au canon. Un coup de feu part de la maison d'un tailleur, tuant un colonel de cavalerie. Les ouvriers construisent une barricade, mais la foule se disperse et l'armée déblaye la rue. La commune de Limoges est terminée. L'état de siège proclamé, la société populaire et la garde nationale dissoutes. Les républicains restent cependant encore majoritaires aux élections et le préfet remplace le conseil élu par des membres nommés qui licencient les trois quarts des ouvriers des ateliers municipaux. Le conseil de guerre condamne à mort, par contumace, les deux dirigeants du mouvement. Les patrons porcelainiers sont persuadés que tout est l'œuvre de l'Internationale, forte ici de plusieurs milliers de membres, à en croire la commission d'enquête, ce qui n'a pu être prouvé. Malgré la répression, en 1872, plus de 1000 ouvriers de la porcelaine et de la chaussure adhèrent aux chambres syndicales.
Voilà, cette première partie se termine avec ce tour d'horizon des expériences communalistes en province en 1870-1871. Pause musicale maintenant, on reste avec la commune de Marseille, avec ce chant « Libertat ou Cancion de Nervi » écrit par un certain Clausel. Ce poème fut publié dans le journal occitan marseillais « La Sartane » du 6 février 1892. Il est dédié à Pierre Bertas, instituteur marseillais révoqué pour ses opinions socialistes. Le texte est découvert par le chanteur Claude Barsotti et mis en musique par Manu Théron, passeur de culture occitane. Il raconterait la commune de Marseille, l'interprétation et de la famille Noyant.
Tu que siens ardelous et nuso, tu cassus disan costipus, tu cassus au bois éclairou, et suen ou suen à plein panous, au buen amuso. Siens la muso di paurigus, ta caras negro de fumado, tisue sentum la fusillade, siens un flou de barricado, siens la venus. Dimor de facies la mestrezo, la queri canges de camier, licenso pal, licenso lie, ligus que van senso sulie, anticareso. Melis autri ti fan ruta, ligros cagamesis familios, licende mix de la paurio, cartutum tu, o santo figlio, es libertad. O libertad, como si es bello, tisues brium cum edulaus, e cruces fiures de tut mau, tibras fot cum mode destraus, istima meros. Mai quei perfestias demostraus, tu pus duso que dices eros, e nos trebule somma bello, camba e sanguina ni paperos, tipes descaus. Tu que sies poderus e rudo, tu que luces in liraiu, tu cas uno vues de cleru, vues sueño e sueina plen panu.
On l'a vu en début d'émission, en 1870-1871, le communalisme n'a pas touché que Paris. Et il nous semble important d'évoquer maintenant d'où vient le communalisme. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la déclaration au peuple français de la Commune du 19 avril 1871. Il s'agit par ce texte de se défendre contre les calomnies versaillaises qui dénonçaient dans la commune une dictature parisienne imposée au pays et de préciser de quelle nature pourrait être la nouvelle organisation politique nationale. Paris veut l'autonomie de la commune étendue à toutes les localités de France. Les localités autonomes seront réunies par un contrat d'association qui constituera l'unité française. C'est une nouvelle forme d'unité nationale qui est ainsi proposée. L'unité, telle qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'Empire, la monarchie et le parlementarisme, n'est que la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire et onéreuse. L'unité politique, telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales. Le discours de la Commune réinvestit très explicitement et très consciemment une tradition ancestrale, comme le montre ce passage de la Déclaration.
Au lendemain de la défaite sanglante et désastreuse que la France vient de subir, comme le châtiment de 70 ans d'empire, de monarchie, de réaction cléricale, parlementaire, autoritaire et centralisatrice, notre patrie se relève, ressuscite, commence une vie nouvelle et reprend la tradition des anciennes communes et de la Révolution française qui lui a donné la victoire, mérité le respect et la sympathie des nations dans le passé et qui lui donnera l'indépendance, la richesse, la gloire pacifique et l'amour des peuples dans l'avenir. Jamais heure ne fut plus solennelle. Cette révolution que nos pères ont commencée et que nous achevons, poursuivie à travers les siècles avec tant d'abnégation et d'héroïsme par les artisans du Moyen-Âge, par les bourgeois de la Renaissance, par les combattants de 1789, qui a coûté la vie à tant de héros glorieux ou obscurs, va se consommer sans lutte sanglante, par la toute-puissance de la volonté populaire qui se prononcera souverainement en déposant son bulletin dans l'urne. C'est cette idée communale, poursuivie depuis le XIIe siècle, affirmée par la morale, le droit et la science, qui vient de triompher le 18 mars 1871.
Ainsi, au XIVe siècle, par commune, dans le contexte français de l'époque, on entendait donc encore la forme politique prise par les villes qui s'émancipaient des pouvoirs extérieurs. On entendait encore cette revendication d'autonomie contre la domination féodale ou monarchique. Revenons à la Déclaration au peuple français.
Comme l'indiquait la Déclaration au peuple français du 19 avril, la commune devait permettre l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales. Elle devait être le lieu même du pouvoir populaire, l'instance par laquelle les travailleurs pourraient participer à la vie politique, pas seulement lors des élections, mais quotidiennement dans la vie des clubs et des associations de quartier. Les travailleurs ne ressuscitaient pas seulement les sections de la Révolution française. Ils réinvestissaient ainsi pour leur propre compte d'anciennes formes politiques en vue d'un but très moderne, l'émancipation du travail. La commune était nouvelle en ce sens qu'elle consacrait la naissance d'un civisme prolétarien, d'une souveraineté populaire directement exercée au niveau local, permettant le développement de la vie politique active, énergique, sans entrave de la grande majorité des masses populaires. Pour Gustave Lefrançais, l'un des proudhoniens les plus actifs, le mouvement de mars 1871 avait en vue non de déplacer l'action gouvernementale, mais bien de la supprimer et d'y substituer la participation directe de tous les intéressés dans la gestion de la chose publique. Le communalisme, terme attesté depuis les années 1840, est la doctrine propre de la minorité des partisans de la Commune de Paris, ceux que l'on peut qualifier de proudhoniens, quoique leurs préférences puissent être diverses. C'est cette minorité sur le plan politique qui est à l'origine du programme déclaré de la Commune. La doctrine du mouvement communaliste parisien vise en premier lieu à instituer à Paris une commune autonome afin de faire pièce à la centralisation monarchiste et impériale. Paris, ville libre, tel est le titre significatif des proclamations que publie le Cri du Peuple.
Ainsi, le communalisme français du milieu du XIXe siècle reprend donc à son compte le républicanisme le plus ancien qui visait déjà à mettre sous le contrôle du peuple souverain l'exercice des fonctions municipales et à remplacer l'armée permanente par le peuple en armes. C'est donc bien la résurgence d'une vieille aspiration à l'autonomie du peuple et à la méfiance vis-à-vis des magistrats prompts à s'emparer des pouvoirs qui leur avaient été confiés pour en faire des tyrannies plus ou moins héréditaires. L'aspect vraiment nouveau est que la commune autonome est radicalement démocratique et regardée comme le seul lieu possible d'émancipation du travail. La nouvelle institution communale tend à l'égalité sociale et à la disparition des antagonismes de classe. La solidarité s'exercera concrètement au niveau communal, est-il précisé, par l'organisation d'un système d'assurance communale contre tous les risques sociaux, y compris le chômage et la faillite. Quant à la souveraineté du peuple et au plein exercice de la démocratie, elle garantira aux travailleurs que les fruits de son travail lui reviendront, mais selon des voies plus proches du mutualisme que du collectivisme. Nous aurons l'occasion, dans de prochaines émissions, de revenir sur cette thématique du communalisme. En troisième partie, pour conclure cette émission, nous nous intéressons aux traces que le communalisme a laissées à notre époque. Avec un premier exemple, la commune de Oaxaca, en 2006, au Mexique. À partir d'une mobilisation d'enseignants pour des revendications salariales, en but à la répression, cette mobilisation se transforme en une vaste mobilisation populaire et débouche sur une assemblée populaire des peuples. Constitué de 260 délégués, ce mouvement devient un parlement populaire qui a autogéré l'espace public pendant quelques mois. Extrait.
Aujourd'hui, nous affirmons avec joie que nous sommes les peuples de Oaxaca, car nous avons retrouvé la mémoire de nos origines indigènes, la communauté comme mode de coexistence sociale, harmonieuse, respectueuse et horizontale entre les femmes et les hommes d'une même société, car nous avons retrouvé l'autonomie comme mode d'existence et de relation plus juste entre les peuples qui se partagent le territoire. Aujourd'hui, avec l'appui vivifiant de la révolution sociale, nos racines indigènes se régénèrent en nous, dans les villes et les campagnes, dans les champs, dans les usines, dans les entreprises et dans les écoles de Oaxaca. Après le mouvement exceptionnel qui a déclenché la commune de 2006, et malgré la féroce répression de novembre-décembre, les peuples de Oaxaca n'ont pas été anéantis. Ils restent debout. La mobilisation populaire s'est poursuivie, et même renforcée, en recourant à d'autres formes de résistance au modèle de domination capitaliste et répressif. Les tentatives d'instrumentalisation de l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, la PPO, ont échoué au profit d'un renforcement horizontal de l'organisation et de l'expérimentation sociale à travers des espaces autonomes et alternatifs dans des communautés indigènes de l'État et les quartiers populaires de Oaxaca.
Et nous terminons en évoquant le Chiapas. Les zapatistes construisent l'autonomie depuis plus de 25 ans au Chiapas, dans le sud-est du Mexique, et leur expérience est souvent comparée à la commune de Paris.
Le 1er janvier 2021, les zapatistes ont fêté les 27 ans du soulèvement et du début de la construction de l'autonomie, 150 ans après l'expérience de la commune de Paris. Le communiqué publié ce 1er janvier annonce une tournée mondiale d'une délégation zapatiste qui commence en Europe en juillet 2021. Co-signé par l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, et de nombreuses organisations, collectifs et personnes européennes, il est intitulé « Une déclaration pour la vie ». Il énumère les peu de choses qui nous unissent. Je cite « Faire nôtre les douleurs de la terre, la violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différentes personnes dans leur identité affective, émotionnelle, sexuelle, l'anéantissement de l'enfance, le génocide contre les peuples originaires, le racisme, le militarisme, l'exploitation, la spoliation, la destruction de la nature. Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel qui s'appelle le capitalisme. Savoir qu'il n'est pas possible de réformer ce système, ni de l'éduquer, de l'atténuer, d'en limer les aspérités, de le domestiquer, de l'humaniser. S'être engagé à lutter, partout et à toute heure, chacun et chacune là où on se trouve, contre ce système jusqu'à le détruire complètement. La survie de l'humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas. Avoir la certitude que la lutte pour l'humanité est mondiale, de même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races. La lutte pour l'humanité est en tout lieu, tout le temps. Je cite toujours « Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde, et que toute prétention à l'homogénéité et à l'hégémonie attente à l'essence de l'être humain, la liberté. L'égalité de l'humanité se trouve dans le respect de la différence. C'est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance. Comprendre que ce n'est pas la prétention d'imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins et nos destins qui nous permettra d'avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l'autre qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice. De par ce qui nous unit et sans abandonner nos convictions, ni cesser d'être ce que nous sommes.
Voilà, cette troisième émission « Vive la Commune » se termine. Nous nous retrouvons dans une semaine pour un quatrième opus. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bye bye.